Mon plein de vie, c'est le podcast qui croque la vie à pleines dents. On y parle de nourriture terrestre, de bien-être, de planète, le tout avec un zeste de poésie, d'humour et de gourmandise. Histoire d'en apprendre des vertes et des pas mûres sur ce qu'il y a dans notre assiette. À savourer sans modération. Épisode 2, le pain, miettes et réalité. Ou pourquoi la baguette n'est pas si magique. Nous nous étions quittés sur un suspense insoutenable. Si la baguette est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, pourquoi le pain a-t-il souvent mauvaise presse? Il ferait grossir, serait plein de sel, de gluten, etc. Alors, idée reçue ou vérité nutritionnelle? Allons voir ce qui se cache sous la croûte de notre bon vieux copain le pain, en 5 points. Numéro 1. Déjà, comment fabrique-t-on le pain? Avec de la farine, du sel, de l'eau, de la levure ou du levain. On le pétrit pour faire une grosse boule de pâte. On le pointe.
Oh, tu tires ou tu pointes?
La pâte se repose et commence à gonfler grâce au levain, c'est la fermentation. On le pèse et on partage la grosse boule de pain en pâtons. On le façonne, en baguette par exemple. On l'apprête, c'est-à-dire qu'on le laisse encore reposer. Enfin, on l'enfourne, on le cuit et on le défourne. Numéro 2, il y a pain et pain. Si les étapes de fabrication du pain sont sensiblement identiques d'une boulangerie à l'autre, il n'en va pas de même pour leur composition. Le savoir-faire de l'artisan joue beaucoup, tout comme, vous l'imaginez bien, la qualité des matières premières. Évacuons tout de suite l'épineux sujet du pain de mie en tranche, qui n'est pas du pain mais un aliment ultra transformé, avec tous ses inconvénients même lorsqu'il contient de la farine complète ou qu'il est sans sucre ajouté. C'est un produit créé de toutes pièces avec des additifs et des agents cosmétiques pour imiter les couleurs, les saveurs, la texture, l'odeur du pain. Bref, ce n'est que de la poudre de perlimpinpin.
Moi, je mange pas de ce pain-là.
Revenons-en maintenant à notre baguette. Complet ou pas? Le problème de la baguette, c'est qu'elle est blanche. C'est-à-dire qu'on a enlevé l'enveloppe du grain de blé, le son. On l'a raffiné. Mais pas de chance, c'est précisément là que se trouvent quasi toutes les vitamines et minéraux. Donc basta le magnésium, le potassium, le zinc, le phosphore, les fibres, les vitamines du groupe B. Il faut donc choisir un pain le plus complet possible.
Ouais, c'est bien beau tout ça, mais comment on s'y retrouve dans les farines?
En général, la baguette est faite avec de la farine T55, c'est-à-dire qu'elle n'apporte plus que 0,55 g de minéraux pour 100 g. Par comparaison, la farine T180 apporte 1,80 g de minéraux pour 100 g. Alors plus vous choisissez une farine au chiffre élevé, plus la densité nutritionnelle sera élevée. C'est simple, non? Dans un premier temps, pour vous habituer à ces nouvelles saveurs, et ce n'est pas un détail, habituez vos intestins tranquillement à ce surplus d'apport en fibres, vous pouvez passer par la farine semi-complète, qu'on appelle aussi farine bise. Numéro 3. Salé, oui, mais surtout trop sucré. Maintenant que vous avez compris les subtilités des farines, on peut aborder un point qui fâche, le sucre. Car on sait que le pain, c'est salé. En moyenne, 1,5 g pour 100 g. Mais c'est aussi très sucré. Une baguette blanche, c'est 150 g de glucides, soit 50 g de plus que ce que le foie peut contenir par jour. Pour simplifier, disons qu'une baguette, c'est 25 morceaux de sucre, sachant que l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, recommande 6 sucres par jour.
C'est tout ?
Et la baguette a un index glycémique de 95, ce qui signifie que tout ce sucre arrive très brusquement dans le sang. Le pancréas produit alors de l'insuline pour réduire ce pic de glycémie, ce qui peut accroître le risque de diabète, d'obésité, etc. Et puis, elle n'est pas rassasiante car elle n'apporte pas assez de fibres. Avouez qu'un bout de baguette en appelle un autre.
J'avoue.
La baguette tradition est une exception car elle a un indice glycémique plus faible. On peut donc en manger un peu plus. Donc oui, le pain blanc, à la longue, peut faire grossir et causer des dégâts. Alors privilégiez le pain complet, voire intégral, qui ne nécessite en plus pas le même travail de digestion, donc brûle des calories pour assimiler les fibres. Numéro 4. Levain, levure, même combat? Levain, levure, ça commence pareil, ça sert à lever la pâte, mais c'est pas pareil. La levure, c'est un mélange de différentes souches de Saccharomyces cerevisiae, utilisée depuis l'Antiquité pour faire du vin ou de la bière par exemple. C'est ce qu'on appelle la fermentation alcoolique. Le levain, c'est de la farine fermentée spontanément avec de l'eau ou un tout petit peu de sucre. Il donne une fermentation lactique, plus lente, 8 à 10 heures, parfois plus, et donc plus digeste. Différence notable, les minéraux, magnésium et zinc notamment, du pain au levain, sont nettement mieux absorbés par l'organisme que ceux du pain à la levure. Enfin, il se conserve beaucoup mieux, il ne se transforme pas en carton en pâte en quelques heures.
Mais alors, pourquoi on utilise de la levure industrielle?
Eh bien car les boulangers peuvent multiplier les fournées avec de la levure et donc vendre plus de pain et faire plus de chiffres. Et on ne va pas leur jeter la pierre, c'est leur gagne-pain après tout. Numéro 5. Et le gluten, ami ou ennemi? Le gluten, on en entend beaucoup parler, mais c'est quoi exactement? Ce petit nom vient du latin glu, qui signifie colle, glu. Et c'est ce qui donne cet irrésistible côté collant, moelleux au pain. Le gluten désigne les protéines de certaines céréales, blé, avoine, seigle, épeautre, orge. Environ 1% de la population française est atteinte de la maladie cœliaque. C'est l'intolérance au gluten. Dans ce cas, il ne faut surtout pas consommer de gluten car il crée une inflammation chronique de la muqueuse intestinale. D'autres sont hypersensibles au gluten mais tolèrent certains pains fabriqués avec des farines traditionnelles et du levain. Tout est question de sensibilité. Si vous souffrez de troubles gastro-intestinaux, vous pouvez essayer d'exclure le gluten pendant quelques semaines pour voir si cela s'améliore. Mais une exclusion totale peut perturber le microbiote intestinal, ce qui n'est pas souhaitable non plus. Le gluten, c'est décidément une question sensible. Un dernier mot sur l'allergie au blé, qui touche environ 0,1% de la population. Dans ce cas, il faut exclure toute trace de blé. Heureusement qu'il existe d'autres céréales. Conclusion, le choix gagnant. Vous l'aurez compris, plus la farine est complète, mieux c'est pour l'apport en fibres et en nutriments. Et pour votre glycémie, tant que l'on reste raisonnable sur les quantités, bien sûr. Une ou deux tranches de pain intégral, pas 4 ou 5. Petit conseil, puisque les pesticides sont concentrés dans l'enveloppe de la graine, autant les limiter, en prenant du pain intégral bio par exemple. Et pour la variété et la richesse des apports pour l'équilibre du microbiote, on varie les farines. Sarrasin, quinoa, seigle ou variétés anciennes comme le petit épeautre ou le corazon. Oh, je sais jamais comment ça se prononce.
Ah ça, c'est 50 au Scrabble, hein.
Vous pouvez même essayer de le faire vous-même en mélangeant des farines comme le teff, le sorgho, le pois chiche. Bon, en vrai, j'ai déjà essayé, j'ai jamais réussi à faire un pain digne de ce nom. On pourrait appeler ça un cake à la rigueur. Ce qui est sûr, c'est que la baguette est irremplaçable. Alors, une tradition de temps en temps, ça ne mange pas de pain.
Alléluia.
Bien sûr, vous me direz, le hic, c'est le prix. Car la farine d'un petit meunier coûte 3 fois plus cher que celle d'un indépendant plus gros. Elle même bien plus cher qu'une farine blanche raffinée bas de gamme. Mais tout est question de priorité. Choisir de manger un aliment meilleur pour sa santé est respectueux des artisans et de l'environnement. On en revient toujours à cette question cruciale. Bien manger, c'est manger différemment, avec plus de conscience aussi, en savourant. Alors on ne se prive pas de pain, bien au contraire, il ne fait pas grossir s'il est mangé en conscience. C'est indéniablement un merveilleux aliment de base, aussi utile pour le transit que pour le sourire à table.
Et maintenant, on peut le manger?
Mais oui, tu peux le manger maintenant.
Oh, c'est bon.
Allez, miam les amis, et n'oubliez pas de croquer la vie à pleines dents.